au 99.1-88.9-CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 17 février, journée très confortable présentement. Là, c'est quoi? Le 0 degré sur Lanaudière à l'émission. Aujourd'hui avec Jacques Plante, il sera question du troisième lien, version Christine Fréchette. On aura avec nous aussi Anne-Marie Picard, directrice générale du comité régional pour la valorisation de l'éducation. Il sera question des journées de la persévérance scolaire. Isabelle Perrault sera aussi avec nous. Elle est préfète de la MRC de Matawinie. On va parler du développement des énergies renouvelables. Aussi, le maire Mathieu Traversy de Terrebonne qui invite le gouvernement du Québec à l'appuyer dans ses projets. Mais tout d'abord, la FIC Lanaudière qui dénonce les conséquences des débordements à l'urgence de l'hôpital Pierre-Legardeur depuis le temps des fêtes. La direction du CIS a décidé d'installer les patients dans un espace qui est qualifié de non adéquat. Et François Morin en a discuté avec la déléguée syndicale Nancy Perrault. Et pendant leur échange, ben, la présidente de la FIC Lanaudière, Claude Lavallée, s'est invitée et a carrément intervenu.
Ben, en fait, là, tout ça a commencé dans le temps des fêtes où, ce que vous savez, là, les urgences à travers le Québec débordaient. Ici, au sud de Lanaudière, l'employeur a décidé de coucher des patients dans ce qu'on appelle le corridor des ambulanciers. Donc, c'est la porte où ce que les ambulanciers arrivent avec les patients. Et là, ils sont vus par l'infirmière au triage et manque de place. Ben, on laisse les patients coucher là. Il n'y a pas de cloche d'appel, il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de toilette. Et c'est un corridor qui est très, très froid. Et malheureusement, dans le temps des fêtes, on a eu un décès dans ce corridor-là qui a été constaté par un ambulancier, étant donné qu'au triage, les filles étaient très occupées avec des salles d'attente là, de plus de 40 patients en attente. Par la suite, nous, on a fait une intervention avec l'employeur qui nous parle toujours de budget au lieu de dignité. Ce que les infirmières à l'urgence disent, c'est est-ce qu'on peut avoir le droit et les moyens pour soigner la population avec respect et dignité? On met les gens dehors de l'urgence faute de place. On a une jeune femme qui avait mentionné qu'elle se sentait pas bien psychologiquement, qu'elle avait besoin d'aide. On lui a donné son congé. Elle a réitéré en disant « Moi, je vais pas bien, je peux pas quitter ». Bon, ils l'ont quand même mis dehors de l'urgence et cette jeune femme-là a fait une tentative de suicide dans les toilettes. Fait qu'on nous parle toujours de manque de place, manque de budget. Le personnel est plus qu'à bout de souffle. Ils sont exaspérés par cette situation-là parce que pour elles, c'est pas ça les soins à la population. Présentement, la population est négligée par manque de ressources de l'employeur.
Est-ce que je peux ajouter un petit quelque chose, Monsieur Morin?
Oui, oui.
Puis vous verrez, là, comme Nancy vient de vous expliquer, suite à tout ça, le syndicat a quand même interpellé l'employeur. On a fait une demande. L'employeur a rencontré les membres de l'urgence là, à deux rencontres. L'employeur s'est avancé en disant, bon, ben laissez-nous du temps, laissez-nous de 1 à 2 semaines pour que mettre des choses en place. Ça va faire 4 semaines passées, 5 semaines passées. Le syndicat a des échanges courriels avec l'employeur en le questionnant sur les demandes de certaines salariées, des demandes qui ont été faites à ces rencontres-là. Et c'est toujours, ben, on n'est pas rendu là, on est encore en réflexion. Fait, vous voyez, tu sais, que l'employeur, je sais pas jusqu'à quel point il prend tout ça au sérieux, mais je veux que vous sachiez qu'on a quand même fait les démarches avant de vous téléphoner. On avait les démarches avec l'employeur. Alors, je laisse la parole à Nancy.
Je voudrais juste revenir rapidement, là, justement, Mme Perrault, sur le décès qui est survenu. J'imagine qu'un coroner qui enquête ou qui a enquêté, est-ce qu'on a fait un lien direct de cause à effet, c'est-à-dire que le décès a été causé par le fait qu'on n'avait pas le temps de s'occuper de cette personne-là?
Pas du tout. Il n'y a rien présentement dans le dossier. L'employeur banalise cette information-là. Et la preuve, c'est que aujourd'hui, pendant que je vous parle, j'ai été interpellée encore par les infirmières de l'urgence et l'employeur couche encore des patients dans le corridor des ambulanciers Et ce matin même, à 7h30, on a une patiente qui, malheureusement, a été prise de convulsions. Je vous rappelle que c'est un corridor, pas de toilette, pas de cloche, pas de rideau, pas d'oxygène. Donc, le personnel a dû intervenir très, très, très rapidement et ils ont interpellé le syndicat en disant « ça n'a pas de bon sens, la population mérite mieux que ça ».
Au moment où on se parle, vous me dites que la situation perdure. Outre les démarches qu'on a fait auprès de l'employeur, est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas s'adresser au protecteur du citoyen?
Ça a été fait. Excusez-moi, pas au protecteur du citoyen, désolée, ça a été fait au commissaire des plaintes ici dans le CH. On n'a jamais eu de nouvelles. Pas de son, pas d'image d'eux. Ensuite de ça, c'était dans notre planning de voir, parce qu'on laissait quand même la chance à l'employeur de prendre la situation en main et de démontrer qu'il y avait eu une certaine écoute, une certaine sensibilité aux soins qui sont donnés. Mais là, on peut voir là, que pour le moment, l'employeur ne fait pas grand-chose par rapport à tout ce qui se passe. Bon, on nous dit qu'on a mis des bassines, qu'on a mis des choses, mais au niveau aussi des transmissions isocomiales, ça, c'est les transmissions, là, les bactéries et les petits virus qui sont dans les hôpitaux. Je veux dire, il n'y a pas de rideau, il n'y a aucune dignité pour les patients qui sont couchés là. Ils n'ont pas de cloche. On change les culottes d'incontinence sans rideau. On a beau les préposer aux bénéficiaires, les infirmières, les infirmières ont beau vouloir mettre une certaine intimité par rapport à ça. Mais vous savez, quand on change une culotte d'incontinence puis qu'on est dans un corridor d'accès à des salles puis d'accès à d'autres locaux, il y a du va-et-vient. Fait que jusqu'à où la dignité, elle est mise en place, ça me surprendrait, mais c'est dans nos prochaines étapes, la plainte aux citoyens.
Non seulement c'est une question de dignité, c'en est une également de sécurité. C'était Nancy Perrault, déléguée syndicale de la FIC Lanaudière, avec qui François Morin a parlé un petit peu plus tôt. Il est 16h12. Dans un moment, Mathieu Traversy, le maire de Terrebonne.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Les matchs du Tricolore, c'est à l'échappée que ça se passe. Chaque soir de match, choisis ton joueur favori et s'il marque un but, tu mérites un shot gratuit. Lors d'un match en semaine, on prolonge notre 4 à 7 jusqu'à 20 heures. Les jeudis, c'est la soirée hockey avec DJ, tirage d'un chandail du CH présenté par la BAT et pique assiette gourmand. Rate pas ça. Réservation fortement suggérée au 450-394-1658.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. SonXPlusJoliette.com.
L'événement Avantage Hyundai est en cours. C'est le moment comme jamais de vous procurer une Elantra 2026. Louez la version Essential pour 78 $ par semaine avec 0 $ d'acompte. Et profitez vous aussi d'une tranquillité d'esprit grâce à la meilleure garantie sur véhicule neuf de sa catégorie. Avec 0 $ d'acompte et 50 garanties limitées sur les véhicules neufs, j'ai zéro crainte à vous garantir un coup de foudre. Faites l'essai d'une Elantra 2026 dès aujourd'hui. Location de 48 mois au taux de 3,49%. Des conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
Achète un Lotomax.
Je monte le son au max.
Un Lotomax.
Je monte le son au max.
Regarde, je vais l'acheter sur l'App Loto-Québec.
J'achète une boîte de grosses pastèques.
Oh, c'est ça.
Lotomax, jouez en ligne. CFNG.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Ouais, ben la ville de Terrebonne manque pas de projets. On vous présentait hier une première partie d'une entrevue qu'a réalisée Régent Turgeon avec le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy. On est bourré de projets, mais encore faudra-t-il que la ville de Terrebonne ait les moyens de ses ambitions. Et dans cette seconde partie de l'entrevue réalisée par le collègue Régent Turgeon, le maire Mathieu Traversy invite le gouvernement du Québec à l'appuyer.
Un autre point, un incontournable selon moi, Terrebonne veut obtenir la finale des Jeux du Québec d'été en 2029, mais ça va prendre encore là des infrastructures sportives récréatives adéquates. faudra de l'argent de Québec encore. Des inquiétudes de ce côté-là aussi.
Ben, écoutez, si Terrebonne, non, pas si, Terrebonne sera la ville hôte des Jeux d'été du Québec 2029. Ça nous emmène des subventions, donc c'est 5 millions de dollars qui vont nous être donnés de la part du gouvernement du Québec si on accepte d'accueillir donc cette compétition. Et évidemment, il y a des programmes de subventions qui sont disponibles pour aider la ville de Terrebonne à remettre à jour certaines infrastructures, puis à créer des nouvelles, des nouveaux terrains puis des nouvelles infrastructures qui seront des legs pour les générations futures, qui permettront aussi peut-être à certains types de sports donc de se pratiquer et de se compétitionner sur le territoire lanaudois. C'est là-dessus qu'on est en train de peaufiner nos cahiers.
Quand on prépare une liste de bandes, une liste d'épicerie, M. Traversy, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un prix attaché à tout ça. Est-ce qu'on peut quantifier financièrement vos demandes au moment où on se parle?
Ben écoutez, c'est des demandes qui sont à la pièce. On n'est pas au pays des licornes. Monsieur Turgeon, on s'entend qu'on n'aura pas 100 % des demandes. Ben écoutez, si le gouvernement veut nous faire un beau cadeau puis répond à 100 % de notre appel, on serait très heureux. Mais on est quand même très pragmatique. On offre des choix au gouvernement d'enjeux sur lesquels ils peuvent venir nous aider. Et là-dessus, évidemment, chaque coup de pouce est très apprécié.
Dans les demandes que vous avez formulées, il y en a qui doivent sûrement regrouper celle de l'Union des municipalités du Québec.
Tout à fait. Donc, on est sur plusieurs enjeux avec l'Union des municipalités. Vous savez que c'est le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, qui en assure la présidence, là, donc pour encore, je pense, la prochaine année et demie. Donc, là-dessus, on est solidaire avec l'ensemble des maires et mairesses là, concernant les infrastructures. Vous allez voir, on va parler beaucoup de fiscalité municipale au cours des prochains mois. Il y a d'ailleurs un rapport, là, Marceau-Forget, là, qui s'en vient, qui devrait être déposé, je pense, pour les assises de l'UMQ au mois de mai. Ça sera donc à suivre du côté des municipalités.
Vous me devancez, j'allais vous poser la question, je vous la pose, le fardeau fiscal là, des Terrebonniens et des Terrebonniennes, est-ce que ça pourrait s'alourdir sans l'aide financière de Québec dans tous ces projets-là que vous caressez?
Ben écoutez, pour l'instant, la politique qu'on a à la ville de Terrebonne, c'est de ne jamais augmenter le taux de taxe plus que l'inflation par année. Donc, c'est une façon pour nous de garantir le maintien de la qualité des services tout en respectant la capacité de payer des contribuables. Là, par contre, où il peut y avoir des défis au cours des prochaines années, c'est si les taux d'inflation sont très, très bas ou en tout cas, mais que le coût, de certains autres types, d'infrastructures, de matériaux et de services augmente d'une façon plus prépondérante. Donc, c'est là-dessus que l'Union des municipalités travaille à essayer de diversifier donc les façons d'aller mieux répartir la facture sur le territoire de la ville, pas juste sur le dos des citoyens, mais aussi des commerçants, des industries. Puis on essaie d'être créatif là sur aussi le partenariat avec Québec et Ottawa. On espère des fois aussi certaines ententes qui nous permettent d'aller chercher notre juste part du côté du Canada.
Dernier point. Vous avez adressé des demandes à un gouvernement qui est en fin de parcours, qui a bâti un déficit quand même important au Québec, qui est très bas dans les sondages, les intentions de vote. On peut s'attendre à quoi? Un gouvernement qui va jouer la carte de la prudence pour pas vous gâter les municipalités ou qui, à l'inverse, pourrait s'avérer un Père Noël, un papa gâteau qui va vouloir vous en donner plus, quitte à aussi aller chercher plus de votes cet automne dans un contexte d'élection provinciale.
Écoutez, je pense pas que c'est pas une histoire personnelle entre les municipalités puis le gouvernement du Québec. Les élus, qu'ils soient au niveau municipal, provincial ou fédéral, travaillent tous pour les mêmes citoyens. On a tous les mêmes électeurs. Donc, je pense que tout le monde travaille de bonne foi, du mieux de leur capacité, à essayer d'emmener une meilleure qualité de vie aux gens, d'améliorer certaines problématiques ou certains irritants qui touchent le quotidien des citoyens. C'est certain que les villes ont des priorités. Le gouvernement a les siennes. Il y a des négociations de temps en temps sur qu'est-ce qui devrait être privilégié. Mais à la fin, je pense qu'on travaille tous pour les mêmes personnes et pour l'intérêt collectif.
Vous avez l'impression que le gouvernement va vous permettre de tirer votre épingle du jeu avec toute cette demande?
Bien, je pense que le gouvernement va travailler très fort avec les municipalités pour, oui, tirer notre épingle du jeu, mais aussi pour faire avancer donc le bien-être collectif. C'est pas tant la ville de Terrebonne qui est gagnante que la population qui pourra utiliser soit les infrastructures sportives, soit pouvoir étudier sur notre territoire, soit pour pouvoir venir travailler dans notre région parce que il y aura des nouvelles entreprises, des industries qui viendront s'établir dans des nouveaux parcs industriels. Donc là-dessus, c'est un travail d'équipe. Puis comme maire de la municipalité de Terrebonne, vous avez vu, on travaille avec tout le monde pour le bien-être là, de nos concitoyens.
Monsieur Traversier, un gros merci.
Ça m'a fait plaisir, Monsieur Turgeon.
Régent Turgeon, donc, qui rencontrait le maire de Terrebonne, Mathieu Traversier. D'ailleurs, Mathieu Traversier, qui à son tour aujourd'hui a rencontré le premier ministre Mark Carney, qui était de passage dans Terrebonne. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure aux informations avec Pierre Jubinville.
Lanaudière PM, ressources naturelles.
La MRC de Matawini devient responsable d'élaborer une stratégie régionale qui vise à analyser le potentiel de développement des énergies renouvelables dans l'ensemble de la région de Lanaudière. Comme l'a expliqué la préfète Isabelle Perrault à François Morin, les promoteurs démontrent de l'intérêt.
Isabelle Perrault, la MRC Matawini devient responsable dans l'élaboration d'une stratégie régionale visant à analyser, je cite, le potentiel de développement des énergies renouvelables. Il y a du potentiel, effectivement, dans les régions.
Je vous cacherai pas qu'il y a plusieurs spéculations qui se font sur le territoire un peu partout, que ce soit pour de l'énergie solaire, l'éolien, la biométhanisation, la biomasse, l'hydroélectricité. Donc, des promoteurs, des entreprises qui viennent explorer le terrain. Donc, on s'est dit aussi bien s'organiser avant de se faire organiser. Donc, cette démarche-là, là, ça vise essentiellement là, à connaître le territoire, à connaître le potentiel, à s'assurer de faire une démarche transparente avec nos citoyens pour savoir ce qui serait acceptable selon le potentiel que nous réserve la région.
En bout de ligne, il faut obtenir l'acceptabilité sociale. Alors, comment on va procéder justement aux consultations?
Oui, ben c'est ça. Ben avant toute chose, on veut comprendre. On veut comprendre quel est le potentiel sur le territoire, qu'est-ce que ça voudra dire pour les endroits ou les territoires qui seront touchés ou visés selon le type d'énergie qui pourrait être produit. Bien, on veut bien faire les choses, pas les faire vite, vous comprenez? Donc, vraiment bien comprendre, analyser, et on est vraiment à cette étape-là. Et c'est dans ce processus-là qu'on s'est engagé avec les autres MRC de Lanaudière. C'est voir quel projet qui pourrait être bon pour l'environnement, acceptable pour la population, puis avantageux pour toute la région.
Faut-il le rappeler, la filière des énergies renouvelables, c'est dans l'air du temps, alors on le rappelle aussi, il faut pas faire ça n'importe comment.
Exactement, puis c'est dans l'air, là, je veux dire, toutes les régions du Québec vivent la même chose. Certaines régions sont déjà organisées, ça, depuis longtemps. Je pense, entre autres, à la région de la Gaspésie, avec les éoliens. C'est la région au complet là, qui s'est dotée là, d'une régie d'énergie renouvelable avec les éoliens. Donc ici, dans la Lanaudière, qu'est-ce qui est une énergie qui pourrait être favorable? Il y a des endroits où ils ont mis des mâts pour calculer la vitesse du vent. La technologie avance très vite aussi. Les éoliennes ont besoin de beaucoup moins de vent et sont beaucoup plus performantes qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Là, ça, on ne se le cachera pas. Donc, ce qu'on veut, c'est faire un portrait réaliste de la situation et en toute transparence, pouvoir en discuter avec les municipalités, les MRC et nos citoyens.
Donc, la première étape, dans le fond, c'est de faire un état de situation afin que je comprenne bien, et surtout rencontrer effectivement les promoteurs.
Exactement. Puis, comme je vous dis, il y a plusieurs types de projets qui peuvent voir le jour, des projets communautaires avec les Premières Nations. Ici, à Matawini, on en a eu un projet actuellement qui s'appelle Matawak. Donc, c'est un projet qui est une turbine pour produire de l'électricité au pied du barrage Matawin. Donc, ça, c'est en collaboration avec les Atikamekw de Manawan et les Inuits de Mastoyash. Donc, il y a possibilité de faire des projets communautaires ensemble qui profitent à toute la région. Mais encore faut-il qu'on soit d'accord avec ça, tant au niveau territorial qu'au niveau de l'acceptabilité sociale.
Dans un deuxième temps, donc, on va davantage consulter les municipalités, la population pour aboutir d'un plan vers quel moment?
Exactement. Puis un plan, puis de quelle façon les municipalités seront impliquées, seront partenaires de ces types de projets-là. Ça aussi, ça peut changer la donne là, de façon importante. On se dit que le gouvernement pousse là, actuellement là, sur les projets d'énergie renouvelable. Donc, dans les prochains mois, on parle pas d'année, là. Dans les prochains mois, on aura quelque chose à présenter.
OK. Donc, c'est pas un échéancier à court terme. On peut parler peut-être de l'automne prochain.
Ben c'est ça, pour avoir le portrait, c'est pour ça qu'on donne cette nouvelle-là actuellement, pour avoir le portrait d'état de situation là, quelques mois, effectivement.
Voilà, François Morin qui s'entretenait avec la préfète de la MRC de Matawinie, Isabelle Perrault. Il est 16h25.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ben, bonne nouvelle métropolitaine pour Charles de Gaulle. Malgré qu'on soit un peu nombreux, là, à partir du tricentenaire, ça roule relativement bien pour atteindre la rivière des Prairies. On franchit aisément Charles de Gaulle. Du côté de Repentigny, je vous dirais que c'est un petit peu dense, secteur industriel. Pour la suite des choses, ça va bien. Pont Le Gardeur par Notre-Dame et par Sherbrooke, c'est facile d'accès. 25 Nord dense à partir de la jonction avec la 440 sur environ 1 km. Par la suite, ouais, assez facile. Secteur du boulevard des Belles-Îles, Terrebonne 25 Nord, pas de problème. Également, du côté de Mascouche, ça va bien. Pont Sophie-Masson, facile en ce moment. Et finalement, autoroute 640. Entre la 25 et la 40 en direction est, c'est plutôt dense depuis environ 500 mètres. Avant la montée des Pionniers en direction ouest, ça roule quand même assez bien. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 15 février. Gagne 57 et 14 avec la ligne DN. Stéphanie Pajot de Saint-Amable. Une carte achetée au marché de la Picoleuse. De contre-coeur. Lucille Dupont de Sorel-Tracy. Carte procurée aux Liquidations Guertin. Diane Poulain de Sainte-Béatrix. Carte achetée à l'expert dépanneur de Saint-Jean-de-Mata. Louise Étier de Chersey. Carte procurée au marché Chersey. Daniel April de Saint-Zénon. Une carte achetée au dépanneur Rondeau. Jocelyn Roy de Sainte-Julienne qui s'est procuré sa carte chanceuse au dépanneur Entrelac d'Entrelac. Et Mylène Lafrenière de Sainte-Marceline qui a acheté sa carte gagnante au Proxy Extra de Saint-Ambroise. Elle remporte le gros lot de 4 000 $ avec sa carte pleine achetée au Shell à Saint-Jacques. Marie-Andrée Picard de La Valtrie. Quant à la deuxième chance, elle a été remportée en entier par Suzanne Ducharme de Saint-Félix-de-Valois grâce à sa carte achetée à la Tabagie Saint-Félix. Tous les dimanches matins, gagnez gros dans le Super Radio Bingo de CFNJ. 5 000 $ à gagner avec les trois jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8 $ pour une feuille de 4. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ, section Super Radio Bingo.
18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Votre Saint-Valentin s'est pas passé comme prévu?
Chérie, je te quitte, chérie. Je suis enceinte.
Chérie, ma mère vient habiter avec nous.
Coucou, mon gendre.
Vous aurez besoin de...
Simon Mercier, courtier immobilier résidentiel
et commercial.
C'est beau l'amour. Royal Lepage Partenaire, agence immobilière.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Cet hiver, vivez pleinement le grand air à la pourvoirie Auberge La Barrière à Sainte-Émilie. Découvrez le village de pêche sur glace avec 25 cabanes chauffées et aménagées pour votre confort. Amusez-vous en famille avec les glissades, la mini-ferme et partez à l'aventure sur le sentier de raquettes. Et après cette journée bien remplie, réchauffez-vous autour d'un bon repas dans le restaurant convivial où ambiance chaleureuse vous attend. La pourvoirie Auberge La Barrière à Sainte-Émilie, c'est aussi votre relais motoneige et grande nouveauté cette année, relais pour quoi? La pourvoirie Auberge La Barrière, une belle façon de vivre l'hiver. Et pour être certain de ne rien manquer, suivez La Barrière sur Facebook.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, Joliette.com.
L'actualité de ce mardi 17 février, en manchette, des patients placés un peu partout à l'hôpital Pierre Le Gardeur. La facture pour rénover les hôpitaux vétustes dépasserait les 2 milliards et France-Hélène Duranceau promet des sanctions dans le dossier Saclic. Et tout d'abord, Pierre Jubainville, l'urgence déborde à Pierre-Legardeur et c'est pas sans conséquence.
Ouais, la FIC, Claude, fait une sortie pour dénoncer une situation qui serait devenue plus que préoccupante à l'urgence. Le débordement du temps des fêtes a engendré une décision de la direction du CIS. Des patients ont même été installés dans un corridor de service, nous dit François Morin.
Le corridor dit des ambulanciers est non chauffé, sans espace sanitaire et sans dispositif pour aviser le personnel s'il survient un problème. Nancy Perrault est agente syndicale.
Il y a eu un décès dans ce corridor-là qui a été constaté par un ambulancier, étant donné qu'au triage, les filles étaient très occupées avec des salles d'attente là, de plus de 40 patients en attente.
Officiellement, aucun lien n'a été établi entre le décès et le débordement de l'urgence. La situation perdure, affirme la présidente de la FIC, Claude Lavallée.
L'enfance s'est avancée en disant, bon, ben laissez-nous du temps, laissez-nous de 1 à 2 semaines pour que mettre des choses en place. Ça va faire 4 semaines passées, 5 semaines passées, et c'est toujours, on n'est pas rendu là.
Le dossier a été remis au comité des plaintes du CIS et un recours peut être adressé à la protectrice du citoyen. François Morin, CFNJ Nouvelle.
Mon demeure dans le domaine de la santé, Pierre, la facture pour rénover nos hôpitaux est énorme.
2,1 milliards de dollars, dont 58 millions pour le CHDL à Joliette. D'ailleurs, l'hôpital se classe 7e dans le palmarès des hôpitaux les plus vétustes, même devant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. 227 bâtiments hospitaliers sont donc considérés comme vétustes par Santé Québec. On écoute son porte-parole, Yann Langlais-Plante.
Les défis sont importants, mais c'est pour ça qu'en ayant les données les plus claires possibles, une mise à jour de l'ensemble de la situation pour toutes les installations au Québec, on va être en mesure de faire une bonne priorisation puis s'assurer d'aller, comme l'aurait dit ma grand-mère, au plus coupant, donc à ce qui est le plus nécessaire de réparer, d'entretenir, de faire des travaux avec les budgets qui nous sont dévolus.
Premier ministre Mark Carney, qui était de passage dans Terrebonne aujourd'hui, il a rencontré son ex-député.
Oui, il a fait un détour par Terrebonne ce midi après la décision de la Cour suprême du Canada d'annuler l'élection fédérale dans la circonscription, élection qui a eu lieu le 28 avril. La libérale Tatiana Auguste avait remporté la victoire par une seule voix contre la bloquiste Nathalie Sinclair Desgagnés, mais un vote n'avait pas été comptabilisé. M. Carney a donc rencontré Mme Auguste en présence du maire de Terrebonne, Mathieu Traversy. L'élection partielle devra se tenir entre le 27 février et le 15 août. Mme Sinclair Desgagnés n'a pas fait connaître ses intentions et rien n'a filtré de la rencontre entre le premier ministre et sa candidate.
Retour maintenant sur le rapport Galland. Le gouvernement du Québec sanctionnera les coupables.
Ouais, Québec promet que les responsables du fiasco Saclic en paieront le prix. C'est la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, qui estime qu'il faut des sanctions pour redonner confiance au public.
Pour France-Hélène Duranceau, le rapport Galland est sans équivoque.
La direction de la SAAQ a menti aux Québécois.
Devant ce lourd constat, une seule action s'impose.
Comme les Québécois, nous voulons punir les coupables.
Oui, mais lesquels? Selon le ministre des Transports, Jonathan Julien, quelques noms sautent aux yeux.
Malenfant, Tremblay, Marcellet, qui ont été nommés à l'intérieur du rapport.
Et d'autres employés de la SAC pourraient aussi recevoir des mesures disciplinaires, prévient la présidente du Conseil du Trésor.
C'est d'être suspendu sans solde, c'est d'être rétrogradé dans tes fonctions.
Et qu'en est-il des entreprises privées qui ont pris part au scandale?
Nous évaluons l'ensemble des recours juridiques possibles.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Et puis par ailleurs, le nouveau chef libéral Charles Milliard a réagi.
Ouais, c'était son premier point de presse à l'Assemblée nationale à titre de chef du Parti libéral. Il a évidemment réagi aux conclusions de la commission. M. Milliard affirme que la CAQ en paiera le prix politique aux élections d'octobre.
De toute évidence, le gouvernement savait. À plusieurs reprises, on a eu des traces de ça. Il y a aussi évidemment eu beaucoup d'enjeux de gestion de la vérité, évidemment, à la Société de l'assurance automobile. Il y aura des conséquences pour ces gens-là. Il y aura aussi des conséquences pour la coalition Avenir Québec. Et cette conséquence-là, s'il n'en tenait qu'à moi, aura lieu le 5 octobre prochain.
Et le cas de Marois Risky sera réglé d'ici la fin de la semaine. Elle siège actuellement comme indépendante depuis l'affaire Pablo Rodriguez.
J'ai l'impression qu'on va la réintégrer. Et puis, il y a Christine Fréchette qui abandonne le troisième lien dans sa forme actuelle.
Oui, le troisième lien qui était devenu la 7e mouture. Alors, les projets s'accumulent les tablettes. Elle s'engage à l'annuler au profit d'un pont à péage dans l'Est en partenariat avec le privé.
Christine Fréchette ne ferme pas la porte à l'idée d'un troisième lien, mais il y a un bémol.
Si je suis élue chef de la CAQ, j'annulerai le projet actuel de troisième lien.
Selon elle, le minuscule gain de temps du tracé central proposé depuis 2024 par son gouvernement n'en vaut tout simplement pas la chandelle.
11 milliards de dollars pour un tracé dont, sincèrement, les dirigeants économiques et politiques, tout comme les citoyens, ne veulent pas.
La candidate dans la course à la chefferie de la CAQ s'en remet plutôt à l'idée d'un partenariat avec le privé.
Le projet intégrera donc un péage.
Pour construire un pont à l'est de Québec et Lévis, qui deviendra ainsi la 7e mouture du troisième lien.
Ça devrait être au privé de prendre le lead.
En attendant, elle propose notamment d'élargir l'autoroute 20 et d'abaisser le tablier du pont de Québec pour le passage des poids lourds.
Il n'y a pas une baguette magique qui va régler les enjeux de circulation dans la région.
Philippe Rodrigue, Como Cogeco Nouvelles, Québec.
Oui, on aura d'ailleurs l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure avec Jacques Plante. Et par ailleurs, Pierre, il y a Bernard Drinville, il fallait s'y attendre, qui n'est pas vraiment content.
Non, il a taillé en pièces le projet de mobilité de sa rivale, Christine Fréchette. M. Drinville croit que ce plan n'est pas réaliste.
Ce qu'elle propose, c'est la fin du troisième lien. Les gens de Lévis en veulent un troisième lien. À l'est, il va être beaucoup plus coûteux que celui au centre, et les gens de Lévis, de Chaudière-Appalaches, puis je pense que les Québécois, de façon générale, sont sensibles à la question des coûts. De l'amener à l'est, d'avoir un pont de 5,8 km de longueur au lieu de 2,8, ça va coûter beaucoup plus cher.
Scène policière maintenant, arrestation de trois hommes dans un dossier de faux documents.
Oui, un troisième a été arrêté aujourd'hui en lien avec une organisation de production, justement, de faux documents et de pièces d'identité. Il s'agit de Youssouf Hakim Victory Williams, 27 ans, qui a été appréhendé à Montréal. Son arrestation s'ajoute à celle d'Evans Émile, 42 ans, et de Ralph Isaïe Labadie, 34 ans, survenu un peu plus tôt. Le trio doit comparaître dans les prochaines heures à Joliette. La Sûreté avait notamment saisi près de 1000 documents falsifiés des équipements pour la production de faux en mars 2025 à Montréal.
Et on termine sur une note, ma foi, fort intéressante, des Québécois qui sont pas mal débrouillards aux Olympiques en Italie.
Oui, c'est le cas de le dire. Ce sont des Québécois qui gèrent et opèrent la totalité des boutiques de souvenirs officiels aux Jeux olympiques cette année. Ils vendent ainsi pour des millions de dollars de marchandises dans des dizaines de points de vente en Italie. Philippe Bonneville.
Claude Amézian et son frère sont des entrepreneurs de Brossard et ils ont remporté l'appel d'offres international pour opérer les 60 boutiques et points de vente de produits officiels des Jeux en Italie.
Olympique, c'est la première fois, on en est fiers.
Le contrat est colossal puisque des milliers de personnes entrent dans ces boutiques éphémères chaque jour, dont plusieurs sont aussi gérées par des Québécois.
Des amis de la famille aussi qui sont là-dedans. Du Québec, il y a une trentaine de personnes.
Et les gens dépensent des sommes énormes dans ces boutiques souvenirs pour se procurer des peluches, des chandails, des tuques et des manteaux.
Il y a beaucoup de qualité dans ce qu'on trouve, par exemple. Fait que les gens vont payer cher, mais ils vont en avoir pour leur argent.
De nombreux produits ont même été créés par des Québécois.
30 % de la collection qui est ici, qui est des produits designés par des Québécois, à Brossard, à côté de Montréal.
Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelle, à Milan, en Italie.
Eh bien, des gens qui ont le sens des affaires.
Et qui ont trouvé le bon filon.
Ouais, merci, Pierre. Bye. Bonne fin de journée.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournelle.
Voilà, il est 16h38. Jusqu'au 20 février, aux quatre coins du Québec, se déroulent les Journées de la persévérance scolaire. Et dans la Naudière, ouais, ça fait des années que le Comité régional pour la valorisation de l'éducation, qu'on appelle le CREVAL, en a fait sa mission première. Et François Morin en a discuté avec la directrice générale, Anne-Marie Picard.
Alors, Anne-Marie Picard, on est en pleine Journée de la persévérance scolaire. Ça se poursuit jusqu'au 20 février, comme par les années passées. Le CREVAL travaille beaucoup, fait de la sensibilisation, mais on n'est pas tout seul, il y a des partenaires aussi. Là.
Ah oui, puis cette année, là, on a encore près de 500 partenaires là, qui font des activités, parlent de persévérance scolaire, font de l'affichage, il y a des mules d'encouragement, il y en a partout. Puis le nouveau sondage là, qui a été fait par notre réseau, là, par la firme, pour notre réseau, par la firme Léger, démontre vraiment que dans la Naudière, là, on est plus fort que le reste du Québec là, sur notre volonté de régler ça. Il y a comme 90 % des Lanaudois et Lanaudoises qui considèrent que l'école n'est pas la seule responsable de la réussite éducative. Ça, c'est une belle progression là, depuis quelques années.
Parce que le sondage, justement, je pense qu'il implique les les parents, qui implique les oui. gens d'affaires, qui oui. implique tout le monde. En fait, c'est la société en général oui. qui est responsable de la réussite.
Oui, puis c'est le message qu'on livre au Créval depuis 20 ans maintenant, parce que le décrochage scolaire, là, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Il y a des facteurs de protection, puis il y a des facteurs de protection qui sont plus faibles, donc qui deviennent, ils sont le contraire en ce temps-là. Puis ça affecte pas chaque personne de la même façon. Moi, par exemple, adolescence, une peine amoureuse, va peut-être me faire décrocher de l'école parce que là, c'est la goutte qui mais toi, peut-être que non. La conciliation étude de travail, il y a un jeune qui travaille beaucoup, il y en a que ça stimule, mais d'autres que ça amène à une perte de motivation scolaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le message vienne de partout pour soutenir nos jeunes puis nos adultes qui sont en formation. Puis, il faut pas les oublier, les adultes, non plus.
On s'était déjà parlé au cours des dernières années du taux de diplomation dans la région qui était pas facile, en fait, qui était quand même bas. Est-ce qu'on voit quand même qu'une tendance à l'amélioration?
Oui. Si on regarde là sur une plus longue période, là, parce que la pandémie a comme un peu fait réagir les chiffres différemment, là, on voit que la tendance à l'amélioration est encore là. Notre taux de sortie sans diplôme s'améliore beaucoup dans la Naudière, et l'écart au niveau de la qualification, l'écart avec le Québec se résorbe. On sait qu'il y a 20 ans, la Naudière était vraiment dans les régions les pires au Québec, mais c'est plus vrai ça. On s'est vraiment beaucoup amélioré, et malgré le fait que notre territoire est quand même très vulnérable face à la réussite éducative, il y a beaucoup de villes qui sont dans des indices de défavorisation là ici.
Donc on parle surtout là, de ça touche surtout les jeunes du secondaire et peut-être même au niveau collégial.
Oui, au niveau collégial aussi, il y a des enjeux. Puis même quelqu'un qui est à l'université ou un adulte qui fait un retour au travail, là, faut qu'il concilie maintenant sa vie scolaire, sa vie familiale, son travail. La motivation peut être nourrie par nos encouragements. Là, autant on a eu un exemple récemment à l'UQTR, une cohorte d'enseignants qui étudient en milieu de travail pour aller chercher leur maîtrise qualifiante. La responsable leur a fait des cartes d'encouragement, en a distribué. Les gens, avec des rubans, les gens étaient tellement contents, là. Puis on parle d'adultes. Donc, tout le monde a besoin d'encouragement chaque jour dans la vie qu'on mène aujourd'hui.
Il y a quand même de l'espoir, peut-être au niveau des études supérieures, parce que de plus en plus, la Naudière offre cette éducation-là. Oui. On va peut-être avoir une bonne nouvelle vendredi concernant le quartier universitaire du côté de Terrebonne. Et quand les jeunes voient qu'ils peuvent avoir accès à des études supérieures dans leur région, ça doit être encourageant.
Bien, effectivement. Puis il y a des études qui prouvent là, que plus l'établissement d'études supérieures est près de chez vous, plus la fréquentation est importante. Puis, faut saluer les efforts des universités dans la Naudière parce qu'on est la 14e région sur 17 au niveau de la scolarité universitaire. Donc, on a l'UQTR qui est très présente, l'UQAM, l'Université de Montréal aussi, qui offre une panoplie de cours sur le territoire, et les cours qu'ils décident d'offrir, ça vient d'enquêtes qui sont faites sur les besoins de main-d'œuvre dans la Naudière. Donc, c'est vraiment, on n'apprend pas comment cultiver les cocotiers ici, là. C'est pas de ça qu'on a besoin. Donc, il y a eu des sondages, des questionnaires qui ont été faits, puis selon, ils répondent aux besoins de main-d'œuvre universitaire qu'on a ici.
En terminant, peut-être rappeler quelques-unes des activités. On l'a dit au début, ouais. Là, mais quelques-unes des activités là, qui ont cours jusqu'au 20 février.
Jusqu'au 20 février, donc, il y a beaucoup de bibliothèques qui ont des murs d'encouragement. On peut aller déposer des encouragements aux étudiants et étudiantes sur ces murs-là. Il y a un concours de dessin pour les cartes de l'année prochaine. Donc, il y en a là, pour tous les âges. Le jeudi persévère, donc jeudi cette semaine, On s'habille avec du verre, on se photographie, on envoie ça sur les médias sociaux pour dire aux jeunes et aux adultes en formation qu'on les soutient. Et je vous inviterai à aller sur le site du Créval aussi. Il y a des boîtes à outils, il y a des jeux imprimés, il y a plein de choses. Puis suivez notre Facebook. Ce matin, on a eu un beau témoignage de Martin Picard du Pied de Cochon qui nous parle de persévérance scolaire. Donc, il y a des ambassadeurs partout dans la région. Il y a la ville de l'Assomption l'éducation qui a fait quelque chose aussi. Ça grouille en vert dans la Naudière.
C'était la directrice générale du Créval, le comité régional pour la valorisation de l'éducation, Anne-Marie Picard. Il est 16h45, dans un instant, Jacques Plante.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustré, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 principal à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Dans la Naudière, on prend le temps de s'arrêter, de respirer, de se sentir libre d'être soi. Ici, les moments vrais comptent. Ils nous ancrent, nous rapprochent et nous font avancer ensemble, fiers de qui nous sommes et de l'endroit d'où l'on vient. La Naudière nous rassemble, nous ressemble. Osez grand, vivez grand.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah-hey! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont poussé des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte poigne, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Au concert du dimanche à CFNJ, Jean-Jacques Goldman.
J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves.
Le concert du dimanche avec Jean-Jacques Goldman, dimanche matin 7h à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Bonjour Jacques.
Salut Claude, bonjour tout le monde. Que de bons souvenirs, M. Goldman.
Oui.
Ah, c'est bon ça.
Jacques a tellement l'air heureux avec un zéro degré, ça fait du bien là.
Ah non, mais ça, ça réchauffe mes petits os. Hein? Ça fait du bien, effectivement.
Troisième lien, version Christine Fréchette.
Oui. Oui.
Il n'en reste plus grand-chose.
Je vais faire attention, Claude, à toi et à tes auditeurs pour ne pas les perdre. Je vais pas chanter, mais je vais juste vous souligner ça. Tout le monde connaît la ritournelle, le pont d'Avignon.
Oui, sur le pont d'Avignon, on y danse.
On y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Ouais. Ben, ça exprime ce que j'avais à dire. Salut, je m'en vais.
Ça tourne en rond.
Ouais. Tu comprends?
Ouais.
Parce que là, c'est devenu une guéguerre de chefferie entre Drainville et Fréchette sur des dossiers qui sont chauds à la CAQ. Ça fait 8 ans qu'ils sont au pouvoir. Ça fait 8 ans que ça bouge pas beaucoup. Ce dossier-là, qui est devenu, pour moi, un ancre de bateau, là.
Qui est en train de caler la CAQ.
Exactement.
Exactement, parce que regarde le système de santé actuellement, les hôpitaux vétustes. Y a-t-il une place où on doit investir avant le troisième lien?
Voilà.
C'est la santé, c'est nos routes dans l'état de nos routes.
Alors, c'est comme si...
Non, mais
c'est comme si
il y a d'autres priorités, là.
C'est ça. C'est comme si ces deux-là sont en campagne de chefferie. Et ils sont carrément déconnectés de la réalité.
Dans le cas de Drainville, c'est que j'ai l'impression qu'il veut, premièrement, il sait très bien qu'il n'y aura pas la chefferie de la CAQ, il veut sauver son siège. C'est mon impression. Il est dans la région de Québec, il veut sauver son siège.
Ben oui, puis tu te souviens, là, on va reculer de quelques mois, c'est bien avant le temps des fêtes où je l'avais baptisé Bernard Titlam Drainville, parce qu'au moment où on avait dit qu'on arrêtait le troisième lien,
il avait
versé quelques larmes.
Petite larme de crocodile.
C'est exactement. Là, il revient avec ça, c'est pas crédible. Pas crédible, pourquoi? Et autant le plan de Mme Fréchette aussi, mais d'ailleurs, elle le tasse carrément,
ouais,
le projet.
Ouais.
Là.
Ben là, on parle d'un PPP dans son cas, ouais, elle, un aussi, partenariat là, public-privé. Y
a qui va lever la main?
Ben, d'autant plus qu'elle imagine le pont passer sur l'île d'Orléans. Hein? L'île d'Orléans. Il n'y aura pas d'acceptation sociale. Oublie ça.
Ça a déjà été prévu. Mais ça a déjà
c'est
été,
du patrimoine.
Ça a déjà été publié, ça, en disant...
Il y avait...
Dans les possibilités.
Oui, c'était... je crois que c'était le chef conservateur, Éric Duhaime, qui avait avancé ça, qui voulait faire passer le pont sur le bout de l'île d'Orléans.
Ben, Legault, dans un point de presse, le premier ministre, en avait fait allusion, ouais, en disant on regarde tous les scénarios possibles, parce que, bon, c'est les gens qui vont dans le coin, là... T'es en train de bâtir un beau pont.
Tu ne touches pas à l'île d'Orléans. C'est du patrimoine, l'île d'Orléans.
Il me semble qu'arnacher ça, ça serait un peu ridicule.
Non.
Déjà que pour ceux qui y vont, là, hein, moi, j'aime ça quand je vais faire un tour voir ma fille à Québec. Mm-hmm. Souvent, on va faire un petit pique-nique.
Oui,
à l'île d'Orléans. Mm-hmm. Et déjà, il y a beaucoup de circulation parce, oui, que c'est un bel endroit. Il y a beaucoup, oui, de touristes. Alors, ajoutez-en pas, tabarnouche.
Non. Tu touches pas à l'île.
En quelque part.
Puis, un pont à refaire aussi. D'ailleurs, le pont de l'île est à refaire. Si on,
oui,
parle de pont.
Oui, c'est ça. Puis, il y a plein de nids de poules à boucher à bien des places. Je peux pas dire des nids d'autruche.
Bon, pour revenir à nos moutons, partenariat public-privé, elle aimerait bien que le gouvernement fédéral s'engage financièrement aussi là-dedans. Oui. Mais de la façon qu'elle l'a présenté, on a l'impression qu'elle veut tasser carrément le projet.
Ben, en tout cas, c'est l'idée que ça donne parce qu'elle regarde finalement d'autres projets qui avaient été analysés par Geneviève Guilbeault au moment où Mme Guilbeault était ministre des Transports. Mm-hmm. Donc, elle parle d'abaisser le tablier du vieux pont de Québec. Là. Je,
oui,
veux dire, le vieux,
oui,
pont de Québec, c'est pas la porte, c'est l'autre à côté.
Oui, oui.
Le pont de fer. Là.
Pour permettre aux camions de passer.
Exactement, parce que là, ça passe pas.
Mm-hmm.
Elle parle de prolonger, d'élargir l'autoroute 20 à la hauteur de Lévis.
Oui, de près de 6 kilomètres. Ouais, c'est ça. En fait, l'élargir sur une... distance de 6 kilomètres.
Exactement. Et ne riez pas, je suis à jeun. Elle parle de construire un pont d'étagement à l'intersection de l'autoroute Robert-Bourassa et du boulevard Le Bourgneuf, pour ceux qui connaissent le coin.
Oui.
Une autre idée de pont.
Oui, pont d'étagement.
Il lâche pas. Tu dis, c'est pas sérieux à un moment donné.
Il y a une voie supplémentaire aussi sur Pierre-Laporte.
Oui, puis là, on parle des approches des ponts, des deux côtés, là,
ouais,
du côté Rive-Nord, Rive-Sud. Il y a déjà des travaux qui ont été faits. Là, on voudrait en faire d'autres aussi pour essayer d'élargir finalement. Et on parlait d'un, c'est tout ça que tu viens de mentionner, septième voie
sur Pierre-Laporte.
Sur Pierre-Laporte.
Ouais.
Et bonne chance.
Oui.
Mais tu sais, si tu regardes ça, écoute, on est à 6 mois des élections, là.
Oui.
Tu parles d'un partenariat PPP, là, oui, public-privé.
Oui.
Déjà, de dire aux gens, est-ce qu'il y a des entreprises, est-ce qu'il y a des sociétés qui sont intéressées? Déjà, est-ce que les gens lèvent la main? Là, ça va être encore d'autres maudites études qui vont coûter un bras et demi.
Tu sais, c'est parce que, où sont les priorités? Les priorités, la priorité de la population, puis, tu sais, c'est les gens qui vont élire le prochain gouvernement, là. C'est la population qui va élire le prochain gouvernement.
Ouais,
alors, parlez donc de santé, parlez du coût de la vie. Quelles sont vos approches pour réduire le coût de la vie? Mais quand t'arrives avec des dépenses de l'ordre de 12 milliards pour un fichu pont, pour... donner un gain de 2 minutes aux automobilistes, ça n'a pas de bon sens, genre.
C'est pour ça que là où je te disais initialement, actuellement, ça se joue en famille, le débat.
Mm.
Ça se joue à l'intérieur de la CAQ.
Oui.
C'est les gens qui vont avoir leur carte, là, en bonne et due forme comme membre, qui vont voter et élire un de ces deux-là comme non seulement chef de la formation politique, mais premier ou première ministre désigné. Après ça, comme je disais tantôt, dans 6 mois, là, c'est le jugement de la population. C'est un autre game, là.
Et Christine Fréchette aurait dû aujourd'hui se tourner la langue dans la bouche 7 fois avant de lancer une déclaration, parce qu'elle répondait au député Sylvain Lévesque, qui appuie, lui, Bernard Drainville. Là.
Oui.
Lui, il avait affirmé que le troisième lien était dans l'ADN de la CAQ. Et là... Christine Fréchette a répliqué à Sylvain Lévesque en disant « C'est dans l'ADN de la CAQ de gérer rigoureusement l'argent public. »
Oui, c'est ça. Hein, ils se prennent pour deux
Nordvolt, c'est quoi ça? Le scandale, ça clique, c'est quoi ça? C'est de l'argent public.
Exactement, exactement. Ça a pas de sens. L'augmentation de salaire.
Elle a pas pensé, je pense. Elle l'a échappé, celle-là.
C'est parce que là, il essaie de jouer au laboratoire. Tu sais, l'ADN. Quand t'es rendu en politique à utiliser le terme ADN, là, hein? Arrêt, droite, neutre. Moi, je pourrais l'interpréter
chose
comme
assez
ça.
Surprenante quand même. Il y a un appui supplémentaire aujourd'hui pour Christine Fréchette, l'appui de Martine Biron. Martine Biron, la députée qui est de la circonscription voisine de celle de Bernard Drainville. Martine Biron qui était en faveur du projet de troisième lien de François Legault.
Donc, on parle de la région de Québec, effectivement. Et là, elle se range derrière Madame
Fréchette.
Exactement.
Oui.
C'est pour te montrer. Écoute, j'en parlais tantôt avec des collègues. Il y a le trois quarts du caucus est derrière Fréchette. Mm. Alors, ça donne rien. On le voit de toute façon, le Drainville. Je suis même pas capable de savoir, mis à part le troisième lien, c'est quoi que tu vas faire? Mm. Parce qu'il est toujours en train de l'attaquer, elle.
Oui.
Il se sent tellement menacé qu'il est pas capable de nous parler de lui, qu'est-ce qu'il va faire.
Supposons, il perd la course à la chefferie. Bernard Drainville, je crois pas qu'il puisse continuer avec la CAQ, le type d'attaque, le type de politique, le type de course à la chefferie qu'il mène actuellement. Drainville peut pas rester là.
Mais c'est pas juste ça aussi, c'est que, rappelle-toi, quand il a fait son lancement de campagne, il est allé dire, le dernier slogan de la CAQ, là, c'était « Continuons ». Lui a dit non.
Mm.
Il vient de renier tout ce qui s'est fait avant. Là.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, il s'est dit, on passe... Peut-être qu'il va t'appeler, Claude, pour avoir une job à radio. Non, mais écoute, il a fait le PQ, il est retourné derrière un micro, il est sorti de là, il est retourné à CAQ.
Moi, je te dis que Bernard Drainville, pour sauver la face, parce que Bernard Drainville veut conserver sa circonscription de Lévis, et je le comprends, et la seule façon pour lui de conserver la circonscription de Lévis, puis c'est pas la première fois que je le dis à la radio, c'est de se joindre au conservateur d'Éric Duhem.
Oui, mais j'espère que M. Duhem va avoir assez de Johnny Gwen pour lui dire non.
Ah, c'est ça.
C'est ça.
Mais moi, je crois pas.
Non, mais je suis d'accord avec ta façon de voir les choses.
Oh, oui.
Il va chercher de baiser avec quelqu'un ailleurs. Ça,
oui.
C'est sûr.
Moi, je crois que Duhem va lui ouvrir grandes les portes du Parti conservateur les idées de Bernard Drainville se rapprochent actuellement de celles d'Éric Duhem.
Mais quand tu regardes son passé, là, sa feuille de route politique, là, en partant du PQ.
Oui. Ah oh non, mais
tu comprends,
on sait que c'est un vire-capot.
Mais c'est parce que moi, comme chef d'un parti, là, je ne serais pas intéressé à emmener quelqu'un dans ma gang comme ça.
Je crois qu'il est parti de la gauche pour aller vers le centre-gauche, aller vers le centre-droite, et là, il est rendu à droite.
Oui, puis là, il est en train de creuser son tunnel.
C'est ça.
Hein? Ou se faire un pont, quelque chose.
Mais c'est pour ça que je te dis que ses idées se rapprochent maintenant de celles d'Éric Duhem, et Éric Duhem a quand même de très bonnes chances dans la région de Québec d'aller chercher quelques circonscriptions, et ce serait une possibilité pour Bernard Drainville, étant sur la rive sud de Québec, Lévis, de conserver sa circonscription de Lévis en étant dans l'équipe d'Éric Duhem. En tout cas, on verra après cette course à la chefferie.
Et c'est tellement drôle ce que tu dis, parce qu'actuellement, dans les gens qui l'appuient, il y a les deux Beaucerons, Beauce-Sud, Beauce-Nord.
Oui.
Et aux dernières élections, ils se sont fait chauffer les fesses, eux autres, là.
Oui, et quand tu regardes les projections dans les circonscriptions Beauceronne, c'est conservateur solide.
Oui, mais là, on est encore de bonheur.
Oui, mais on n'est pas encore en période électorale, mais ça commence à sentir un peu. Là, les libéraux se sont placés avec Charles Milliard à leur tête. Alors là, c'est réglé pour le Parti libéral. Reste à régler la CAQ, puis après ça, on est en pré-campagne électorale, Jacques. Ça sent bien.
On part en campagne avant de partir en vacances d'été, ça c'est sûr.
Certainement. Merci beaucoup, Jacques Plante.
Bienvenue, salut.
Je salue et remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, François Morin, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, ainsi que Jacques Plante, ici Claude Fournel. Me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à vous mentionner de ne pas manquer Nicolas Bellemare qui sera là de l'autre côté de l'actualité de 17h pour vous présenter le 5 à 7 trad de CFNJ. Et nous, on est là demain. On est de retour à 16h. Ciao!